Le docteur Pierre Harvé, donc, est microbiologiste et infectiologue au CHRGP depuis plus de 25 ans. On a fait le point hier après-midi, alors que 30 cas de variants et 4 hospitalisations en lien avec ces cas ont été confirmés dans la région. Ça pouvait pas mieux tomber parce que quand on a demandé au docteur Harvé de nous parler quelque part cette semaine, on était loin de se douter qu'on allait se retrouver avec ce bilan-là, qui est pas un bilan catastrophe, là, mais qui est un bilan qui est, ma foi, décevant pour ceux qui s'attendaient à mieux puis qui anticipaient l'avenir avec des résultats plus favorables que ça. Docteur Harvé, bonjour.
Bonjour, M. Saint-Pierre.
Ouais, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? C'est pas la catastrophe, là, mais mettons que c'est le genre de nouvelles dont on aurait facilement pu se passer, mais on n'a pas tant de contrôle que ça là-dessus. C'est ce qu'on s'est aperçu dans les dernières heures.
Tout à fait. En nombre absolu, 30 cas, on a vu pire que ça. On est rendu à 1700 dans le Bas-Saint-Laurent. C'est pas en soi le nombre absolu, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. J'essaie de penser à toutes sortes d'exemples pour illustrer un peu ce qui se passe. Là. C'est un peu comme si le feu prend. Et avant, ce qu'on essayait de faire prendre en feu, c'était de l'huile, qui était le virus habituel, la COVID qu'on connaît depuis un an. Puis là, le variant, bien, c'est un peu comme si l'huile s'est transformée en essence. Ça fait que c'est pas mal plus inflammable de l'essence.
Oui. À l'heure actuelle, ce dont on se méfie terriblement, ce sont les variants. Sans entrer dans des grands détails scientifiques, là, comment on peut expliquer... une fois de plus, j'oserais dire, parce que les gens là, qui sont très préoccupés par la COVID, probablement qui écoutent tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se lit sur le sujet, mais comment on pourrait résumer, là, dans une expression plutôt simple, la situation du variant? Comment il nous arrive? Comment il se transforme?
Bon, un virus, c'est très primitif, puis ça se reproduit, hein, comme une bactérie. Nous, on se reproduit, puis on fait un ou deux enfants, mais un virus va faire, à chaque fois qu'il se reproduit, il va faire 1000 copies de lui-même dans les cellules de notre corps où il se reproduit. Fait qu'il fait littéralement, dans une personne donnée, il va avoir des milliards de copies. Fait que sur le lot, il y a des erreurs. Fait que sur les milliards de virus qu'on a dans le corps, quand on est infecté par ce virus-là, ben, de temps en temps, il y en a un qui, par hasard, il y a eu une erreur là dans la reproduction, puis il est différent. En général, ça n'a pas de conséquences, mais une fois sur 100, une fois sur 1000, cette erreur-là mène à un changement qui est significatif. Dans ce cas-ci, les variants, c'est des mutations, hein, des erreurs de reproduction du virus qui font que là, il est vraiment plus contagieux.
Oui. Oui, est-ce que cette mutation-là se produit toujours? C'est-à-dire que dès qu'il y a un virus qui prend de l'air, là, que ce soit sur un continent, que ce soit dans une région particulière du monde, est-ce qu'automatiquement un virus, ça subit ou ça va subir éventuellement une ou des mutations?
Vous avez raison. À date, on a identifié des dizaines de milliers de mutations. Vous comprenez, mais la grande majorité sont sans conséquence. Donc, heureusement, mais en même temps, plus il y a de gens qui ont le virus, plus il y a de virus dans le monde, ben plus la probabilité qu'à travers les milliers, tous ces virus-là, il y en a une mutation qui soit conséquente, ouais, augmente. On est rendu là.
Oui, oui. Donc, on peut voir un virus qui va se développer quelque part dans le monde et qui n'aura pas nécessairement de variant parce que son étendue va être contrôlée ou circonscrite. Mais en même temps, plus ça se répand, plus les possibilités d'avoir des variants sont fortes. C'est ce qu'on doit comprendre?
Tout à fait. C'est de la mathématique. Plus il y a de virus, plus il y a de chances qu'il y ait des variants, plus il y a de variants, plus ça se répand vite. Puis plus ça se répand vite, plus il y a de gens qui sont malades. Et plus il va y avoir de décès. Moi, je vois ça un peu. Tantôt, j'entendais M. Deschênes qui disait « Ouais, mais les mesures... » C'est un équilibre entre les mesures puis le virus. Les mesures, c'est comme on a le pied sur le frein. Puis le virus, lui, il a le pied sur l'accélérateur. Fait qu'on conduit une auto avec le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur. Et là, le problème, c'est que le virus a pesé sur l'accélérateur. Fait que les mesures doivent suivre le pied de droite qui pèse l'accélérateur. Ouais. C'est un équilibre. Puis il faut s'ajuster à ça. C'est pas, on n'a pas ben le choix.
Qu'est-ce qui fait qu'un variant semble être beaucoup plus contagieux que le virus d'origine?
C'est essentiellement une quantité de virus. Le virus se reproduit plus, il se reproduit plus vite, puis il y a plus de virus chez un individu donné. La moyenne, on appelle ça la période d'incubation, vous attrapez le virus aujourd'hui, ben, en moyenne, dans 5 jours, vous allez commencer à être malade. Avec le variant, c'est peut-être pas dans 5 jours, c'est peut-être dans 3 jours, dans 2 jours et demi, et on sait que dans les 2 jours précédant le début des symptômes, c'est là qu'on commence à être contagieux. Ouais. Ça peut aller très, très vite. C'est ça l'affaire. C'est de la mathématique. On va se retrouver, on pourrait se retrouver avec 200 cas dans 10 jours.
Oui, je comprends. Docteur Harvey, tandis que vous êtes là, profitons-en pour parler de vaccins. Il m'apparaît important, en tout cas, étant donné qu'on est dans la période de vaccination, là, puis que les tranches d'âge baissent tranquillement. Là, on est rendu aux 65 ans et plus les 60 ans et plus à Montréal, les 65 ans et plus ici. Là, lorsqu'on reçoit un vaccin, on reçoit quoi et quel est, quel est le mode d'opération du vaccin par rapport à l'effet qu'il doit provoquer chez la personne qui le reçoit?
Le vaccin, c'est ça qui est intéressant. Les gens ont peur des vaccins parce qu'ils ont peur des effets secondaires. Quand on reçoit un vaccin de la COVID, on reçoit comme une recette. Comment faire du pain? Ben voilà, il y a une recette, on met tels ingrédients. On reçoit le petit bout de code génétique qui permet de construire une protéine du virus. Mais c'est pas le virus. Vous recevez pas le virus au complet. Vous recevez juste un petit morceau de virus. Et vous recevez même pas c'est juste le code. Nos propres cellules prennent ce code-là, produisent en grande quantité la protéine. Et là, notre système immunitaire dit, il reconnaît ça. Il dit, c'est pas à moi, ça. Il se défend. Et là, on devient immunisé contre cette protéine-là du virus. Puis elle s'adonne, cette protéine-là, à être essentielle pour que le virus entre dans nos cellules puis nous rende malades. Fait que ça nous protège contre l'entrée du virus dans nos cellules. Et à date, il n'y a pas de décès dans le monde qu'on a pu attribuer au vaccin.
Oui.
Donc, il est sécuritaire et il faut faire confiance. On m'a dit, on vit en société. Quand je passe sur un pont, moi, je fais confiance que les ingénieurs l'ont bien construit, le pont. Sinon, je vais rester chez nous, là.
Oui. Docteur Harvey, et là, on va parler de vaccins, mettons, de vaccins antigrippal en général. Il y a des gens qui disent, moi, je m'étais jamais fait vacciner pour la grippe, puis la fois que je me suis fait vacciner pour la grippe, j'ai été malade comme un chien. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là?
C'est que j'essaie d'être bref parce que la réponse est assez compliquée, mais c'est qu'à chaque année, c'est une sorte de gamble. Les experts mondiaux définissent il circule plusieurs souches d'influenza dans le monde, de grippe, et on essaie de dire c'est laquelle qui va prendre le dessus dans 6 mois pour que lorsque ça va arriver en Amérique du Nord, on va être protégé. Bon. Mais là, des fois, ils se trompent. L'autre chose, c'est qu'on dit la grippe. Mais il y a au moins 10 virus grippaux. Il n'y a pas juste l'influenza qui donne la grippe. Vous essayez peut-être de protéger contre l'influenza, mais vous avez attrapé un adénovirus, puis vous avez été malade comme un chien, mais contre ce virus-là, il n'y en a pas de
vaccin. Oui, oui. Mais donc, à moins qu'on... Parce que je prends la peine de préciser dans ma question, c'est un effet, là, je dirais, quasi immédiat. Je me suis fait vacciner cet après-midi. Demain matin, je suis malade, je suis obligé d'appeler et dire que je ne rentre pas travailler. Donc, il y a oui ou non un effet direct. En fait, les gens qui m'ont raconté ça, moi, c'est un peu comme si ils avaient réagi trop fort à la réception du vaccin. Ça a un rapport ou ça n'en a pas du tout?
Non, il y a une réaction au vaccin, puis tant mieux. Ça veut dire que votre organisme réagit et reconnaît qu'il y a quelque chose... Il faut qu'il se défende, il faut qu'il réagisse. C'est votre réaction au vaccin qui est correcte. On est content que ça donne ça. C'est pas de dire que le vaccin a pas servi. Au contraire, il a réveillé vos soldats qui s'activent pour vous protéger quand le virus va arriver.
Oui, oui. Donc, ça peut aller de zéro réaction à avoir une réaction qui, pendant 24 ou 48 heures, va être pratiquement l'équivalent d'avoir attrapé une forte grippe, voire même de dire ben, « j'ai été vacciné contre la COVID, puis j'ai l'impression que je l'ai eu pendant 24 heures ».
Vous avez raison, mais on sait que le vaccin protège à 100% contre les formes graves, contre les décès, contre les hospitalisations. Donc, même si vous filez ordinaire, vous ne pouvez pas aller travailler pendant 24 heures, c'est un moindre mal parce que ça vous protège de façon significative.
Bien, dernière question, Dr. Harvey. Est-ce qu'il faut absolument faire un lien de cause à effet? Il n'y a pas eu de d'éclosion de gastro l'automne passé, l'hiver passé, ce printemps. Il n'y a pas eu vraiment d'autres formes de grippe durant l'hiver non plus. Est-ce qu'on doit faire un lien de cause à effet entre les mesures sanitaires et l'absence de écoutez, à la limite, il n'y a même pas eu de rhume cet hiver. Est-ce qu'on doit faire un lien?
Le lien est total. C'est tout à fait juste. Et c'est la preuve que ça se transmet là, par les contacts sociaux, etc. Mais moi, en conclusion, je vous incite fortement à vous faire vacciner. Puis si vous aimez vos grands-parents, là, allez pas les voir. C'est surtout pas maintenant.
Oui.
Je comprends qu'on est tous tannés, là, puis moi le premier, mais là, la game vient de changer là, depuis 3 jours. Puis je pense que malheureusement, c'est pas parce qu'on est tanné que le virus est moins virulent. Au contraire. Fait que soyons. Je nous encourage à être très prudents.
Dernière question, Dr. Harvey, puis après ça, je vous laisse tranquille. Est-ce qu'il y a des mesures sanitaires qui ont été imposées durant cette pandémie-là qu'il serait intéressant de voir demeurer? Je vous nomme là, parmi celles-là, le Purel à l'entrée des commerces, par exemple. Est-ce que ça, c'est une mesure qui, dans une société qui veut se protéger éventuellement contre la grippe, contre le rhume, contre la gastro, est-ce que c'est le genre de mesure qui devrait rester?
Intéressant, votre question. Si on avait un choix à faire, là, juste une mesure, il faudrait en choisir parmi toutes, c'est celle-là que je prendrais, moi. Laver les mains. C'est un transport en commun pour les microbes, nos mains.
Mm-hmm.
Alors, ce serait une mesure pas chère puis très efficace. Il y aurait moins d'absence au travail. Ce serait efficace.
Puis en plus, on est capable de régler ça par soi-même en traînant sa petite bouteille dans ses poches.
Voilà.
Ouais. Hey, merci, Dr. Harvey, de votre généreux temps.